Daniel Harari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président directeur général de Lectra. Nous sommes au siège du groupe à Paris. On va parler bien sûr de l'année 2018 et des perspectives. De votre point de vue, qu'est-ce qui a été important pour vous sur cette année, sachant qu'on a beaucoup parlé de la Chine et des États-Unis, pas forcément pour de bonnes raisons, mais pour Lectra. Qu'est-ce qui est important sur cet exercice?
Si on regarde l'année, on a vécu avec des vents contraires au rythme des tweets de la Maison-Blanche qui se sont traduits par des difficultés entre le Mexique et les États-Unis, puis les États-Unis et l'Europe, puis maintenant aujourd'hui la guerre commerciale avec la Chine qui pèse beaucoup en fait sur nos clients. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on a réussi à délivrer nos objectifs dans un contexte qui était particulièrement hostile.
Justement, on a vu beaucoup sur l'automobile. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'automobile. Au début, on regardait ça un petit peu de loin en disant non, il ne va pas y avoir d'impact. Puis on a vu les constructeurs, on a vu les équipementiers que vous connaissez bien. Donc là, on a vu un vrai effet de cette guerre commerciale.
Oui, il a été très fort. Pour donner un exemple, au premier trimestre, nos commandes ont été en baisse de 90% en Amérique du Nord, parce que personne ne savait s'il était de bon ton de continuer à investir au Mexique ou non. Et puis, nous avons rattrapé sur les trimestres qui ont suivi, mais ça a été une année mouvementée, puisque la même chose s'est produite dans la mode, dans l'ameublement, en Chine au deuxième et troisième trimestre.
Ça fait plusieurs années qu'on parle ensemble de la stratégie de Lectra. Est-ce que vous diriez que ça a été un peu similaire à ce que vous avez pu vivre dans la crise financière de 2007-2008, ce type de chute brutale?
Non, le 2007-2008, c'était vraiment une crise. Là, on n'est pas dans une crise, on est dans un phénomène d'attentisme lié au fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes parce que tout change tous les jours. Donc, l'incertitude est mauvaise pour nous parce que nos clients hésitent à investir, mais elle n'a pas vraiment d'incidence sur le moyen long terme parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien qu'ils rattrapent et qu'ils investissent.
Justement, de votre côté, comment vous vous êtes adapté dans cette période quand il y a ce type de chute? C'est effectivement spectaculaire. Comment on s'adapte?
Ben, je crois qu'il faut mettre son armure et se dire que les choses sont ce qu'elles sont, tracer sa route, suivre les objectifs qu'on s'est fixés et puis accepter qu'il y aura des bons et des moins bons trimestres, des moments difficiles et des moments moins difficiles. C'est ce que nous avons fait et nous avons délivré tous les objectifs que nous étions fixés en interne. Notamment, nous devions sortir des produits très importants et nous l'avons fait en date et heure.
Oui, la partie nouveaux produits, même dans un contexte justement, peut-être parce qu'il y a ce type de contexte, c'est aussi important de proposer ça aux clients.
C'est très important. Nous avons investi depuis plusieurs années sur le futur, avec aujourd'hui près de 30 millions d'euros d'investissement en recherche et développement par an, pour préparer justement une offre pour l'industrie 4.0, pour nos clients, dans l'automobile, dans la mode et dans l'ameublement. Et aujourd'hui, cette offre est disponible et nous pensons qu'elle va porter notre croissance des années à venir.
Alors, dans les pays émergents, il y a eu aussi d'autres effets. On a beaucoup parlé d'effets devises, bien entendu. Ça a été, donc on pourrait dire que l'ensemble des marchés était perturbé finalement.
Oui, l'environnement a été très hostile. Quand on regarde nos chiffres dans cet environnement, on pense qu'on peut être fier. On a réussi à délivrer malgré une situation qui était difficile et fluctuante.
Alors, dans la stratégie que vous avez mis en place, il y a aussi ce mode de développement qu'on appelle, pour les éditeurs de logiciels, le mode SaaS, où effectivement les clients vont payer une espèce d'abonnement, on va dire, pour simplifier les choses, le software as a service. Ça a un impact forcément à court terme. Vous êtes encore dans une phase d'investissement?
Oui, nous avons énormément investi en recherche et développement, mais surtout dans la logique d'abonnement, on enregistre le chiffre d'affaires qu'au fur et à mesure. Donc ça pèse sur les comptes à court terme, mais c'est évidemment meilleur sur le moyen long terme. Donc ça va peser sur 2018, 2019, probablement 2020, et puis l'effet commencera à être positif sur les années qui suivent. Surtout l'intérêt pour nous de vendre sous forme d'abonnement, c'est que ça permet à nos clients de prendre l'abonnement qui leur convient et d'évoluer au fur et à mesure. Et nous facturons en fait notre software as a service en termes d'usage. Donc plus le client s'en sert, plus il paye, moins il s'en sert, moins il a besoin de payer. Et ça facilite beaucoup l'adoption des nouvelles solutions.
Alors, vous avez été aussi actif en matière de croissance externe avec notamment Cubix Lab. Qu'est-ce que vous en attendez et pourquoi ce type d'acquisition?
Cubix Lab, c'est d'abord un coup de cœur. Les quatre fondateurs avaient beaucoup d'expérience dans le monde de la mode, dans le PLM, dans les technologies. Et nous avons décidé d'acquérir la société avant même qu'elle fasse sa première vente. Aujourd'hui, nous avons commercialisé ces produits en Italie avec beaucoup de succès sur la première année. Et nous avons l'intention d'utiliser cette technologie comme socle de nos développements pour les années à venir.
Alors, on entend de plus en plus parler d'industrie 4.0. On pourrait dire en plaisantant qu'on n'a pas vu la 2.0, la 3.0, on en est déjà à la 4.0. Dans votre secteur à vous, dans votre domaine à vous, qu'est-ce que cette industrie 4.0?
L'industrie 4.0, c'est supposé être la quatrième révolution industrielle, donc aussi important que l'avènement de l'informatique. C'est en fait des usines, des points de vente, des sites de développement qui sont connectés avec des machines intelligentes capables de dialoguer entre elles et avec des utilisateurs. Donc l'illustration, c'est par exemple l'offre qu'on vient de sortir, Fashion on Demand, by Electra, qui permet à un consommateur de rentrer dans un magasin ou d'aller en ligne, choisir ses options, demander à ce qu'un vêtement soit adapté à ses mesures et pouvoir le fabriquer dans les minutes qui suivent.
Voilà, donc c'est un vrai, on va dire, un vrai changement de consommation du coup derrière à venir, et donc pour les fabricants, bien sûr, plus d'offres.
Alors c'est un changement à plusieurs niveaux. Ça va permettre certainement une relocalisation dans les pays matures parce que beaucoup de technologies, peu de main-d'œuvre bon marché, donc typiquement adaptées à la France, l'Allemagne, les États-Unis. Ça permet aussi d'être beaucoup plus écologique. Pas de stock, pas d'invendu, donc évidemment pas de destruction de matière. Et puis surtout, c'est un modèle économique gagnant-gagnant puisque le consommateur a un produit personnalisé et pour la marque ou le fabricant, ça veut dire pas de stock, ça veut dire d'être payé à l'avance, pas besoin de financer le développement. Donc beaucoup d'avantages pour tout le monde et beaucoup de technologies à l'appui.
Alors, dans les interviews qu'on a pu faire ensemble, vous aviez parlé de la Chine, de ce marché chinois. Vous aviez dit ici même que les fabricants chinois montaient en gamme, hein, clairement. Vous confirmez ça, il y a vraiment cette tendance-là?
Oui, absolument. Dès 2017, fabriquer en Chine a coûté aussi cher que fabriquer aux États-Unis. Alors, l'Europe reste encore 20 à 30% plus chère, mais les Chinois n'ont plus d'avantage coût. Donc, cette montée en gamme, on la voit tous les jours. On voit se développer les marques chinoises qui ont d'ailleurs gagné une très grande partie du marché chinois. Les marques européennes et américaines s'étant concentrées sur les grandes villes comme Shanghai. Et aujourd'hui, ce sont des industriels en quête de valeur et pas seulement d'amélioration des prix de revient.
Alors, un point important pour les investisseurs, vous arrivez à cette fin d'année 2018, vous n'avez pas de dette, vous avez au contraire une trésorerie. À quoi va-t-elle servir dans les prochains mois?
Des acquisitions, très clairement, nous avons annoncé que 40% de nos résultats iraient aux dividendes et 60% seraient rajoutés à notre trésorerie qui fait un peu plus de 100 millions et servira à faire des acquisitions.
L'année 2019, de votre point de vue, ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine va continuer, donc il va falloir être dans la même, je dirais, stratégie pour s'adapter à ce marché compliqué.
Je crois que nous, on a une seule stratégie et après, on va vivre au rythme des aléas de cette guerre commerciale. On l'accepte, on n'a pas d'autre choix. Mais oui, je pense que ça va être une année compliquée. C'est pas pour ça que ça ne sera pas une bonne année.
Merci Daniel Harari d'avoir fait le point avec nous.
Merci.